Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Today is a historic day. We eradicated AIDS. Thank you, Donald Trump.
La poudre de perlimpinpin, c'est comme tes connaissances en politique. Ça ne sert à rien et ça fait juste illusion.
I am not Morgan Freeman, and what you see is not real.
2024 sera une année électorale record. Union européenne, Brésil, États-Unis, Mexique, Indonésie, Inde, Pakistan ou encore le Bangladesh, tous ces territoires ont une élection programmée pour cette année. Mais on va faire encore plus simple et résumer tout ça. C'est bien la moitié de la population mondiale en âge de voter qui se rendra aux urnes en 2024. 8 des 10 États les plus peuplés du monde sont concernés. Malheureusement, qui dit élection dit désinformation. Il faut donc s'attendre à voir les fausses informations littéralement exploser, tout particulièrement sur les réseaux sociaux. Mais avec le boom qu'a connu l'intelligence artificielle l'an passé, il faut également s'attendre à voir exploser le nombre de deepfakes. Apparue au milieu des années 2010, la technique des deepfakes utilise l'intelligence artificielle, entre autres, pour reproduire des comportements humains parfois presque parfaits. Ainsi, un deepfake permet d'imiter la voix et le visage d'une personnalité politique, par exemple, et de lui faire dire ce que l'on veut. Dans le générique de cet épisode, certains auront peut-être cru reconnaître Donald Trump, Emmanuel Macron ou Morgan Freeman. Que nenni, il s'agissait en réalité de deepfakes. Vous l'aurez compris, les deepfakes peuvent être des outils de désinformation particulièrement efficaces, surtout en période électorale. Alors, est-ce un danger pour la démocratie ? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec deux experts, Ivan Gviatkowski, chercheur de Harfang Lab, et le journaliste Gérald Olubovitch. Allez, vous écoutez un épisode de Culture Numérique, un podcast de Siècle Digital. Bonjour Ivan et bonjour Gérald.
Bonjour.
Salut.
Alors merci à tous les deux d'être avec moi pour parler deepfake, plus particulièrement en année électorale partout dans le monde. Ça va avoir son importance, on va le voir. Gérald, tu es journaliste, mais aussi consultant média, expert en intelligence artificielle, en deepfake. Et quant à toi, Ivan, tu es chercheur en cybersécurité chez Harfang Lab. Alors au sujet de ce qui nous intéresse aujourd'hui, je vous propose d'être clair et de poser les bases tout de suite. Qu'est-ce qu'un deepfake ? Exactement, Gérald.
Alors un deepfake, c'est trois choses en réalité. C'est deepfake, c'est le nom de l'utilisateur qui a sur Reddit, qui a commencé à travailler sur des vidéos manipulées avec de l'intelligence artificielle et donc qui en a fait une forme de commerce et qui se faisait connaître sous le nom U/deepfake. Donc c'était son nom. Le deepfake, c'est aussi une forme d'objet culturel qu'on a vu fleurir pendant depuis 2017 sur les réseaux, sur YouTube et ailleurs, à la fois des deepfakes, on va dire, de divertissement, qui sont des deepfakes, on retrouvait Tom Cruise, on retrouvait Tom Selleck à la place d'Indiana Jones, enfin des choses comme ça. Et puis, évidemment, de l'autre côté, on avait eu aussi la contrepartie qui était les deepfakes pornographiques qui se sont développés en même temps et de façon plus importante que les deepfakes de divertissement. Aujourd'hui, le terme deepfake devient un terme un peu ombrelle sous lequel on réunit tous les objets manipulés par l'IA, donc y compris par l'IA générative à l'aide de Midjourney ou de Stable Diffusion. Et puis derrière, en fait, on a pour la troisième acception du terme, c'est-à-dire que c'est plus le terme technologique en fait qui va s'associer en fait à la partie algorithmique et on va dire voilà, c'est un deepfake parce que c'est un objet manipulé par l'IA.
Ok, donc ça c'est pour ta définition, Gérald. Et toi, Ivan, est-ce que tu as quelque chose à ajouter?
Alors, pas grand-chose, dans le sens où, effectivement, Gérald a tout bien couvert. Peut-être que moi, je pourrais juste résumer en parlant plutôt de la vision du terme deepfake dans l'imaginaire collectif, plutôt que sa définition plus rigoureuse. Quand on entend deepfake, souvent, c'est quoi ? C'est le fait d'avoir un média, ça peut être vocal, ça peut être une image ou même une vidéo qui a été synthétisée grâce aux moyens de l'intelligence artificielle et qui met en scène une personnalité, en général publique, mais ça pourrait être n'importe qui, comme toi ou moi, et dans une situation, en fait, où elle n'a pas été présente, mais qui, grâce à ces outils d'intelligence artificielle, font comme si cette personne avait dit quelque chose ou était quelque part, ou avait été filmé dans une situation ou une autre, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Et en général, c'est utilisé soit à des fins de divertissement, soit à des fins de désinformation.
C'est intéressant que tu mettes déjà en avant ces deux fins, c'est-à-dire la désinformation et le divertissement. On y reviendra après, notamment pour voir si finalement il n'y a que du mal dans les deepfakes, ou est-ce qu'il peut aussi y avoir de bonnes utilisations. Mais juste avant, j'aimerais revenir sur ce que toi tu as dit, Gérald. Est-ce que c'est devenu un terme un peu fourre-tout, deepfake, où on y met un peu tout et n'importe quoi sans savoir vraiment de quoi on parle ?
Oui, c'est devenu un terme que les journalistes ont commencé à employer un peu à tort et à travers pour éviter de se prendre la tête avec des définitions trop pointues. En réalité, c'est bien pratique, hein. On est bien d'accord que voilà, ça permet de faire comprendre ce que c'est à peu de frais. Donc oui, c'est un peu utilisé à l'emporte-pièce. Après, les réalités technologiques derrière sont un peu différentes, les objets sont un peu différents. Quand on parle de deepfake audio, aujourd'hui, on parle plutôt de l'IA générative, donc du text to speech, ou alors des manipulations qui sont un peu de cet ordre-là, ou qui font appel en fait à des techniques plus récentes que les GAN sur lesquelles reposaient les premiers deepfakes.
Mmh. Oui, un terme un peu fourre-tout, mais c'est vrai que c'est utile parfois quand il faut vulgariser, on va dire, en peu de mots, certaines notions ou certaines actualités. Comment ça fonctionne techniquement, un deepfake? Comment on en crée un, est-ce qu'il faut, par exemple, je ne sais pas, filmer sous plein d'angles différents une personne et après on le met dans un logiciel alimenté par l'IA et puis il fait tout le travail ?
A priori, c'est de plus en plus facile. C'est pas forcément très compliqué, en tout cas ça l'a été et ça l'est de moins en moins. Par exemple, pour faire un deepfake vocal de mémoire, il faut à peu près une heure de conversation audio ou une heure d'enregistrement audio d'une personne pour pouvoir ensuite synthétiser n'importe quel texte à partir de discours qui ont été prononcés par cette personne. Alors, pour le tout venant, c'est pas forcément facile de trouver une heure d'enregistrement vocaux de cette personne sur Internet. Mais par contre, dès qu'on est sur un acteur, un homme politique, un conférencier, là tout de suite, ça devient très très simple. Voilà. Et donc, techniquement, comment ça se fait? Il y a des services en ligne de plus en plus qui ont pignon sur rue et qui permettent de le faire moyennant finance. Mais il y a aussi tout un ensemble de modèles gratuits qui sont disponibles et qu'on peut entraîner ou spécialiser soi-même, avec des résultats plus ou moins efficaces, mais en tout cas, c'est des choses qu'aujourd'hui, on peut faire avec une carte graphique haut de gamme, trouvable dans le commerce. Pour ce qui est des deepfakes, on va dire, visuels, là, j'ai un peu moins de métriques, c'est-à-dire, je ne sais pas exactement combien il faut d'images de la personne, je ne sais pas s'il faut le profil, mais mon intuition serait qu'avec une heure de vidéo de la personne, on doit pouvoir faire et des images et des vidéos à peu près convaincantes, qui permettrait d'avoir des résultats satisfaisants, en tout cas pour des besoins alimentaires évidents. Plus on a de données, et plus on est capable de faire des modèles qui sont précis et fidèles à la personne qu'on essaie de cyberdupliquer, je dirais, avec des gros guillemets. Donc voilà, ça sera possible comme ça. Mais encore une fois, la donnée dont on a besoin, qui est la donnée initiale, à savoir des enregistrements, des images, des photos, des vidéos de la personne dont on veut faire un deepfake, dans la plupart des cas, elles sont largement disponibles. On prend n'importe quel homme politique, on peut trouver, je pense, en quelques clics sur YouTube, des centaines, voire des milliers d'heures où on les voit s'exprimer en direct. À ce titre-là, je dirais que techniquement, c'est pas forcément à la portée de n'importe qui, parce qu'il faut avoir quelques compétences techniques de base, mais je pense que pour les gens du domaine, c'est pas vraiment un problème, et surtout, de plus en plus, ça se démocratise, parce qu'il y a des services en ligne qui, justement, se spécialisent dans la création de deepfakes, à des fins de divertissement, mais potentiellement ce service pourrait être détourné d'être fin malveillante aussi.
Oui, cet aspect de l'accessibilité, on y reviendra juste après. Gérald, tu voulais ajouter quelque chose, peut-être sur l'aspect vidéo ?
Oui, en fait, aujourd'hui, on a des, par exemple des logiciels comme Agen ou Synthesia qui permettent de réaliser des avatars synthétiques, donc des doublures de soi-même avec quelques minutes de vidéo enregistrées de façon correcte. Donc c'est relativement simple de pouvoir mettre en place. En fait, il faut mesurer la distance, le chemin qui a été parcouru entre 2017 et aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, en 2017, il fallait effectivement des heures et des heures de footage pour entraîner les modèles et faire en sorte que précisément l'algorithme puisse détecter à la fois les visages, puisse bien aligner l'ensemble, etc. Et aujourd'hui, on est effectivement avec, sur certains algorithmes, avec une simple photo, on arrive à faire quelque chose de pas très bonne qualité, mais on arrive à remapper, en fait, une photo sur un visage en 3D qui arrive à faire de temps en temps un petit peu le job. Donc, ça dépend, en fait, l'objectif qu'on cherche à avoir. Si on cherche à être très convaincant et passer inaperçu, là, il va falloir beaucoup de données. Et le moins on veut être convaincant, le plus facile ça devient.
Et justement, parlant de facilité, donc aussi d'accessibilité, on l'a dit, ça devient de plus en plus accessible. Est-ce que finalement, c'est à la portée de n'importe qui sait un petit peu utiliser un ordinateur et qui a évidemment le matériel qu'il faut à disposition avec la puissance nécessaire, mais dès qu'on maîtrise un tant soit peu l'informatique, est-ce que c'est à notre portée de faire un ou des deepfakes?
Moi, j'ai un peu envie de dire peu importe, parce que la réponse que je vais te donner aujourd'hui, qui est oui, peut-être, faut peut-être bricoler, etc., dans 5 ans, à mon avis, ce sera vraiment à la portée de absolument n'importe qui.
Ah oui, 5 ans.
Voilà, la boîte de Pandore a été ouverte, là, avec l'intelligence artificielle.
Même plus rapidement. Même.
Plus rapidement, certainement. Ouais, là, je suis un peu conservateur. Mais honnêtement, voilà, la technologie est là. Il y a des progrès exponentiels qui sont faits de mois en mois. La communauté open source travaille énormément aussi sur ces sujets. Ça avance très, très vite. Et donc, le fait qu'aujourd'hui, il faille encore mettre un peu les mains dans le cambouis, peut-être jouer avec des scripts de Python, des choses comme ça, demain, non seulement il y aura des sociétés qui seront encore plus performantes qu'elles le sont aujourd'hui, mais en plus, à mon avis, les outils open source permettront à tout le monde, et de manière très très facile, de faire n'importe quoi.
Bah oui, ça va extrêmement vite. Est-ce que c'est l'IA qui va... Parce que vous le savez, comme moi, comme nos auditeurs et nos auditrices, 2023 a été l'année du boom de l'IA, de l'intelligence artificielle, avec une démocratisation accélérée. 2024 sera probablement sur la même tendance. Est-ce que ce boom, cette démocratisation accélérée de l'intelligence artificielle, finalement, entraîne également un boom et une accélération des progrès au niveau des deepfakes?
Oui, bah c'est-à-dire que bon, après, une fois qu'on arrive au photoréalisme, on peut plus aller guère très loin. Au niveau de la voix, je pense que c'est là où on va avoir encore un petit peu de progrès, parce que pour l'instant, on est encore un peu loin. Même si on a connu des progrès assez spectaculaires ces quelques mois, on est encore un peu loin de l'exactitude totale d'une voix. Il manque un peu d'émotion, surtout. C'est ça le problème en réalité de la voix. Puis il manque aussi des simulations d'état, on va dire, quand j'ai la voix enrouée, quand j'ai la voix après une bonne soirée. Donc en fait, ça fait partie de ces simulations qui peuvent rendre effectivement les résultats plus convaincants. Bon voilà, après, mais ça va aller relativement vite. En réalité, il y a énormément d'argent qui est investi au niveau de ces entreprises. Les recherches vont bon train. Ça ne fait que c'est un secteur en plein développement. Ça va aller.
Mais au niveau voix, c'est quand même pas horrible, j'ai envie de dire, ce qui est fait. Il y a eu un deepfake il y a peu de Joe Biden, par exemple, qui était pas mal, entre guillemets, appelant notamment les électeurs démocrates à ne pas aller voter. Donc là, à des fins de désinformation, de manipulation de l'électorat en période électorale, mais c'est quand même assez impressionnant ce qui est fait actuellement, et il y aura sûrement des progrès, mais...
Voilà, c'est-à-dire que c'est déjà très bien. Il y a une firme qui s'appelait, une boîte qui s'appelait Sonantic, qui à un moment donné, qui a été rachetée depuis par Spotify, qui avait fait des choses extrêmement convaincantes. Donc on est déjà. En fait, c'est toujours pareil. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'image. Le plus on a des fichiers de bonne qualité, le mieux on peut venir avec un résultat qui s'approche du réel. Et il faut un petit peu de temps et un peu de manip. Et voilà. Donc en fait, c'est plus là. Il y a la démocratisation des outils qui va prendre du temps que vraiment la qualité finale.
Ça fait juste illusion.
Je me demandais aussi quelle différence il y a avec les vidéos truquées de manière traditionnelle. On truquait des vidéos avant les deepfakes, avant l'arrivée des deepfakes et leur démocratisation. Comment vous expliqueriez les différences qu'il y a entre ces deux formats?
Ouais, je dirais que la différence, elle est avant tout technique. À savoir que les effets spéciaux dans le monde de la vidéo, c'est des choses qui sont un peu coûteuses, qui demandent un certain savoir-faire. Là, on est sur des outils qui soit sont déjà démocratisés, soit ont vocation à l'être dans le futur proche. Et le fait qu'il y ait déjà eu par le passé de la désinformation, qu'il y ait déjà eu des fausses vidéos, des trucages, des opérations de désinformation, ça ne change pas le fait que demain, il y en aura encore plus, certainement. Justement, grâce au fait ou à cause du fait que ces outils de génération, de synthèse de contenu sont de plus en plus faciles à utiliser, de plus en plus accessibles et efficaces.
Mmh. Alors, tu disais grâce ou à cause... Oui, Gérald, tu allais ajouter quelque chose ?
Oui, non, en fait, c'est plutôt la différence, c'est le contexte dans lequel ça s'inscrit. C'est-à-dire que quand il y a eu des manipulations de vidéos, de photos, même au début du 20e siècle, c'était réalisé dans un cadre, par exemple, de propagande politique avec des acteurs qui étaient principalement des acteurs étatiques qui cherchaient en fait à gagner de l'influence de façon internationale ou nationale ou politique sur voilà. Aujourd'hui, on est sur cette démocratisation des outils qui permet à tout à chacun de le faire pour des raisons purement mercantiles, pour des raisons de fraude financière, pour des raisons de revanche sur sa petite amie ou sur son petit ami, pour des manipulations politiques, etc. Donc c'est l'envergure de la chose qui est vraiment très différente. Et puis c'est aussi la mise à disposition de l'outil, c'est-à-dire que la photographie, par exemple, au XXe siècle, elle n'a pas été livrée pour faire quelque chose, une manipulation. Voilà. Alors que là, on est directement, l'objet technologique lui-même est directement un objet de mensonge en réalité, puisque on va faire semblant d'être, d'avoir une conversation, d'avoir une restitution humaine ou photoréaliste, mais quand en réalité, il n'y aura rien derrière. C'est l'objet, c'est le rendu technologique lui-même qui est un mensonge et qui donne de facto, en fait, cette capacité-là de créer des informations et des contenus problématiques.
Alors, on va y venir aussi à cette notion de contenu problématique et surtout de désinformation. Mais là, tu as utilisé le mot de mensonge. Yvan parlait tu as utilisé le mot à cause, grâce à. Et justement, alors, les deepfakes, c'est bien, c'est pas bien, c'est mal. Souvent, par exemple, quand on parle d'intelligence artificielle, on dit c'est pas la technologie en elle-même qui est nuisible, néfaste, qui est mal, c'est l'utilisation qu'on en fait. Est-ce que c'est la même chose pour les deepfakes ou par essence, un deepfake, c'est quelque chose de nuisible, de néfaste?
C'est toujours compliqué de mettre un jugement moral sur une technologie. Je pense que Gérald, il soulevait un point très important en disant que le deepfake, par essence, c'est déjà créé ou conçu pour construire quelque chose qui est faux. Et ça, c'est vrai qu'en soi, déjà, c'est une sorte de rupture avec ce qu'on avait avant. Quelque part, on a vraiment une technologie qui est faite pour... Alors, je dirais pas forcément induire en erreur, mais il y aura toujours un degré de...
Manipulation ?
Oui, de manipulation. Et la manipulation, elle peut être consentie. Par exemple, moi, j'avais vu une chaîne Twitch que j'avais trouvée très rigolote, dans laquelle on tapait des questions, et puis il y avait automatiquement une réponse qui était synthétisée, alors je pense avec ChatGPT, et puis avec synthèse vocale et vidéo, où un homme politique nous répondait avec sa voix, et comme s'il était en train de faire une allocution télévisée. Et il y avait plusieurs profils, il y avait Emmanuel Macron, il y avait Le Pen, et puis il y avait aussi Jean-Luc Mélenchon. Bref, donc... Ça marchait très bien, et pour le coup, il n'y avait pas vraiment de mensonge, dans le sens où on savait très bien que c'était généré par IA et c'était fait pour s'amuser. Et en tant que divertissement, moi, je trouvais ça vraiment plutôt sympa, en fait. Mais malgré tout, il ne va pas y avoir beaucoup d'applications légitimes de ces technologies. Ça, je pense qu'on peut, on peut le souligner dès maintenant. C'est qu'il y aura certainement, de temps en temps, des usages qui seront comiques ou parodiques et qui, à mon avis, auront pas mal de succès. Mais à part cela... Moi, j'ai pas encore réussi à bien imaginer quels seront les autres usages qu'on considérera pas comme abusifs, voire franchement trompeurs.
T'es d'accord avec ça, Gérald ?
Oui et non. C'est-à-dire que, en fait, par exemple, sur la mise en pratique, en fait, de ces technologies-là, je pense qu'effectivement, il va y avoir quand même des pratiques plus grand public, du type l'avatarisation, tout simplement, des personnages qui est des gens, alors qui n'est pas forcément d'ailleurs quelque chose de forcément très souhaitable, mais qui est en tout cas poussé, voulu par les patrons de ces entreprises qui mettent en place les services dont on a parlé, et Jane Synthesia et d'autres. Voilà, ça c'est typiquement quelque chose qui pousse très fort à la fois dans l'industrie du service, dans l'industrie dans la santé, dans l'enseignement, dans ce genre de choses pour faire des voilà. Il y a tout un tas d'applications à ce niveau-là qui sont tout à fait pragmatiques d'un point de vue économique, même si d'un point de vue social, on sent bien qu'il y a déjà un sujet éthique qui est soulevé. Après, Oui, sur la, en fait, je suis moins d'accord sur le fait de dire que l'IA et les qui est à la base des deepfakes et de l'IA générative est un outil, presque un simple outil, qu'on pourrait mal tourner ou pas. En fait, de facto, l'outil, intelligence artificielle tel qu'il est construit aujourd'hui, il est problématique dans le sens où, bah, déjà, il y a eu une collecte de données initiale d'entraînement qui a été faite sous des principes un peu relax en termes de droits d'auteur. Il y a des biais énormes dans beaucoup de ces algorithmes-là. Donc, rien que ça justifie de se pencher vraiment. Enfin, c'est pas un Photoshop, c'est pas même pas un marteau. Il y a souvent cette comparaison de dire oui, mais c'est comme un marteau. On a toujours l'histoire du pharmacone. Hein. Il y a le poison et le remède en même temps. Sauf que là, en fait, non. Déjà, le poison, il est très, très fortement ça ne dépend pas de la dose, en fait. Il est déjà vraiment très, très inscrit dans l'outil et c'est ça, en fait, le problème. Et c'est porté, en plus, par des entreprises qui refusent de voir vraiment quel est le problème avec leur outil. Donc, voilà. Sur les versions open source, c'est un peu la même chose, sauf que, globalement, on va dire qu'on peut se protéger derrière la question derrière le sujet open source. Mais on est quand même dans des problématiques assez fortes.
C'est finalement, si j'ai bien compris ce que tu disais, c'est donc même dès l'origine des outils qu'il y a un petit problème, même un gros problème pour toi dans leur construction même. Quelques mots aussi sur les origines des deepfakes. Tu l'as évoqué dans l'une de tes premières réponses, cette origine des deepfakes. D'où ça vient exactement? Est-ce que c'est très vieux?
Non, c'est pas très vieux. C'est pas très vieux. Ça dépend en termes d'informatique.
Chacun son notion.
Hier, c'était déjà il y a 3000 ans. Donc voilà. Mais grosso modo, non, ça date de 2017. En tout cas, les premières occurrences de deepfake. Voilà, il y avait déjà, on avait déjà vu un certain nombre de travaux de laboratoire, etc. Donc ça doit remonter à 2015. En fait, un peu tous ces travaux-là. La détection, tout ce qui est détection faciale, etc., ça remonte à bien avant, puisqu'en fait, c'est des travaux qui ont été engagés notamment par l'armée américaine, hein, pour pouvoir réaliser des automates militaires. Tout ça, c'est issu de cette branche-là de travaux de recherche et les premières émanations grand public qu'on découvre, c'est en 2017 sur Reddit, donc à travers cet utilisateur deepfake qui est révélé par un article de Samantha Cole sur Motherboard et qui grosso modo fait des vidéos pornographiques à la demande, quoi, hein, grosso modo, donc va prendre le visage de Scarlett Johansson, de Gal Gadot ou d'autres et le greffer sur des corps d'actrices pornographiques violant. En même temps, du coup, les droits fondamentaux des deux actrices, hein, de à la fois de la célébrité grand public qu'on connaît, mais aussi de l'actrice pornographique qui a pas du tout spécialement envie de voir un autre visage sur son propre corps. Donc voilà, ça c'est un peu l'histoire du truc. Après, on a eu très vite, en fait, ça a basculé vers d'autres considérations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au début, on s'est un peu ému de cette situation-là. Et puis cette situation est devenue passée au second plan dès lors que on a eu donc Jordan Peele qui a fait sa vidéo avec Obama en invoquant les menaces sur la démocratie, etc., qui sont certes réelles mais qui ont éclipsé complètement le vrai gros problème des deepfakes qui sont la pornographie.
We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. For instance, they could have me say things like President Trump is a total and complete dipshit.
Justement, c'est ce deepfake-là qui a démocratisé aux yeux du grand public, j'ai l'impression, cette technologie. Depuis des années maintenant, ça me permet d'embrayer là-dessus, depuis des années, les deepfakes sont présentés comme un risque pour la démocratie. Avant de savoir de vous demander si c'est vraiment le cas selon vous, j'aimerais savoir, Yvan, est-ce qu'il y a déjà eu, depuis 2017, des campagnes, des grosses campagnes de désinformation via deepfake. Est-ce qu'on a déjà vu ça?
Alors, qu'il y ait eu des tentatives, ça, il me semble que oui, j'ai plus forcément la référence en tête, qu'il y ait eu des tentatives qui ont été vraiment couronnées de succès et par la suite, on a découvert que c'était des deepfakes. Peut-être la Gérald pourra me corriger si jamais je me trompe, si jamais j'ai raté quelque chose, mais il me semble pas en avoir entendu parler. Mm-hmm. Alors, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire d'une part, soit que c'est pas encore arrivé et donc tant mieux pour tout le monde et peut-être que soit le danger a été surestimé soit qu'il n'est pas encore avenu, ça peut aussi vouloir dire que ça s'est déjà produit et qu'on y a vu que du feu. Voilà, ça c'est une autre possibilité. Donc danger pour la démocratie, je pense que le terme est un peu racoleur. Cela dit, danger malgré tout. Ouais. Quand on évoquait tout l'aspect pornographique des deepfakes, évidemment, il est tragique. Et à l'échelle individuelle, c'est toujours des catastrophes qui sont sans doute irréversibles. Je pense que, pour le coup, quand on passe vraiment à l'échelle informationnelle et à tout ce qui est opération de propagande en ligne de désinformation, à mes yeux, c'est plus seulement un danger individuel ou une catastrophe individuelle, mais c'est vraiment une catastrophe au niveau sociétal. Et je pense qu'on y arrive peu à peu. La chose dont il faut bien se rendre compte, c'est que en tant que humain, on n'était déjà pas très très doué pour résister aux attaques informationnelles. Moi, je me souviens d'un exemple et que je trouve toujours extraordinaire aujourd'hui, c'est tout ce qui était la mouvance QAnon aux États-Unis, qui est partie de posts sur 4chan et qui a pris des proportions incroyables. Il n'y avait pas de deepfake.
Tout à fait.
Chaque personne qui fréquente Twitter au quotidien revient toujours avec des histoires à dormir debout et assez terrifiantes. Il n'y a pas besoin forcément de deepfake pour voir que on est déjà dans un environnement qui est particulièrement hostile en termes d'information, et que le fait de rajouter soit des chatbots qui peuvent générer du texte automatiquement, soit des modèles de deepfake qui peuvent créer de la voix, des images ou des vidéos, ça va juste empirer de manière phénoménale tout le phénomène. Pourquoi ? Parce que le fait que à l'époque il y ait eu besoin de produire beaucoup d'efforts pour générer ces faux contenus, ça limitait un petit peu leur prévalence dans l'environnement, dans l'écosystème informationnel. Le fait que demain ça demande seulement quelques clics pour générer ces faux contenus, ça laisse présager un futur où la majorité des contenus visibles en ligne auront été générés par des IA, par opposition, et qui seront a priori d'ailleurs potentiellement malveillants ou pour vocation d'induire les gens en erreur, par opposition à un écosystème où avant, malgré tout, il y avait quand même plutôt une prédominance des informations qui étaient, je vais pas aller jusqu'à dire sourcées, mais au moins qui étaient plus ou moins fiables.
Ça fait froid dans le dos, dit comme ça. C'est sûr que ça fait un petit peu froid dans le dos. Gérald, un peu d'accord avec ce portrait, ce constat pas très réjouissant quand même, il faut le dire.
Oui, bah, je vais pas améliorer la situation. C'est-à-dire que là où en fait, on n'avait pas les ne se rappelait plus. Mais en fait, bon, il y a eu le deepfake de Zelensky qui quelques jours après l'entrée de l'armée russe en Ukraine a bien failli faire déraper la contre-offensive ukrainienne, puisque en fait un deepfake a été diffusé en même temps qu'il y avait un hack de la télévision publique ukrainienne ce deepfake demandait le dépôt des armes en fait des militaires ukrainiens. Donc là en fait très clairement il y aurait pas eu une forme de réaction très rapide de Zelensky sur les réseaux sociaux. On aurait pu voir les soldats ukrainiens poser les armes. Donc ça, c'est allé très très rapidement. Là, plus récemment, et pour le coup, c'est plus compliqué, et ça a été avéré. Enfin, le candidat slovaque là, qui était en lice en fait pour les élections présidentielles. Donc son nom, c'est Michal Šimečka. Et donc, en fait, lui a été victime d'un deepfake audio qui a été diffusé 48 heures, dans la zone des 48 heures de moratoire de communication qui précède en fait l'élection, donc le suffrage, entre guillemets. Et donc, du coup, en fait, et c'était trop tard pour réagir. Lui-même ne pouvait pas réagir officiellement puisqu'il avait il avait cette contrainte légale. Et donc, le truc est parti comme un feu de paille et au final, il a perdu l'élection alors que la course était très, très serrée. Donc,
ça a changé la donne dans cette élection?
Bah, en tout cas, beaucoup disent que ça n'a pas aidé, puisque en fait le deepfake visait en fait prétendait montrer donc le candidat Michal Šimečka et une journaliste en train de dresser des plans pour acheter les voix de la population rome pour faire basculer en fait le scrutin. Donc évidemment, à 48 heures du scrutin, ça la fout mal et ça peut avoir un effet. Après, est-ce que vraiment c'est difficile à mesurer, mais fondamentalement, ça n'a pas joué en sa faveur, ça c'est certain.
Oui, c'est certain.
Donc voilà, et effectivement, là, en plus, à cette année d'élection, 4 milliards de personnes qui vont aux urnes, près de 77 élections à travers le monde, on commence déjà à voir un certain nombre de candidats au Bangladesh, aux Philippines, en Inde, au Pakistan, en Indonésie, aussi être soit victime de deepfakes, soit utiliser des deepfakes audio, vidéo, pour pouvoir communiquer auprès de leur électorat. ça pose la question tout simplement du lien avec le politique, de l'authenticité en fait des rapports qu'on entretient en tant que société, que démocratie. Et évidemment, ça n'offre pas de jolies perspectives, y compris pour les élections de 2027 en France.
Oui, et puis les élections européennes à venir cette année. Il y a aussi les élections présidentielles aux États-Unis où là, c'est un pari pas très risqué que de dire qu'il y aura probablement des deepfakes qui circuleront aussi pour cette campagne. Mais est-ce que tu es d'accord avec ce que disait Yvan, que c'est peut-être un petit peu, arrête-moi si je me trompe Yvan, mais un petit peu abusé finalement de dire que c'est un danger pour la démocratie. Les deepfakes, c'est peut-être pas encore le cas.
Non, je crois pas en fait que ce soit abusé parce que en réalité, les deepfakes, c'est un peu la pointe de la lance. C'est ce qu'on voit. Il y a aussi toute la technologie derrière qui est poussée de façon très très large. Et le principe, en fait, c'est ce que véhicule en fait la technologie, l'aura de cette technologie qui pose problème également, qui pousse en fait les gens à moins se référer à ce qu'ils voient aux sources accréditer, à remettre en question. Alors, c'est bien d'avoir du doute et de questionner les contenus qu'on voit, mais en même temps, là, on en vient à désagréger, en fait, le commun pour en faire quelque chose une vision très parcellaire, en fait, de ce qui existe, voire même très partisane, systématiquement opposée. Donc, c'est pas tellement un deepfake qui va faire s'écrouler le château de cartes, même si c'est encore possible, mais c'est ce que véhicule cette technologie qui se diffuse amplement dans l'espace public numérique, qui va provoquer au fur et à mesure des tensions de plus en plus fortes dans le public et qui peut mener à des problématiques plus graves. Oui.
Ça participe finalement à affaiblir grandement le débat public. Yvan, comment se traduirait une campagne? On disait que c'était une année d'élections partout dans le monde 2024. Comment se traduirait par exemple une campagne menée via des deepfakes?
C'est encore un peu compliqué à imaginer en tant que grande campagne, c'est-à-dire avoir une opération précise, comme l'exemple qui a été cité par Gérald pour les élections en Slovaquie. Moi, je pense que c'est un assez bon exemple d'avoir un deepfake précis qui est timé pile à un moment où la personne en question ne peut pas répondre. Ça me paraît, dans cette réflexion autour du moment où le deepfake est mis en ligne, ça peut être une approche intelligente. Qu'est-ce que serait une vraie campagne où l'espace public serait inondé de deepfakes? J'ai un peu plus de mal encore à me le représenter. J'imagine qu'on le verra. Personnellement, je pense que la structure que ça va avoir dans le futur, ce sera pas forcément un acteur qui pousse un deepfake dans l'espace public pour avoir un effet, mais je m'attends plutôt à ce qu'on ait 10 000 acteurs différents, étatiques, particuliers, individuels, associatifs, pourquoi pas, qui en même temps essaient de pousser en leur propre, on va dire, j'ai envie de dire propagande propulsée par deepfake, et qu'on ait plutôt une vision cacophonique que de campagne ciblée comme on pourrait l'avoir dans le cyberespace, dans d'autres domaines.
Mais on pourrait quand même avoir une campagne d'ingérence, j'utilise encore le mot campagne parce que je ne sais pas forcément quel autre mot utiliser, mais une campagne d'ingérence étrangère comme on a pu le voir dans d'autres élections dans le passé via des deepfakes. Ça, c'est possible.
Absolument, oui. En fait, moi, l'exercice que j'aimerais inviter les auditeurs à faire, c'est de reprendre une publication de 2014 qui était, il me semble, je ne suis pas sûr à 100%, mais suite au document d'Edward Snowden, il y avait eu un certain nombre de PowerPoint qui avaient fuité, qui était lié au JTrig britannique. JTrig qui était une de leurs divisions qui fait spécifiquement de l'influence en ligne des PsyOps, et dans lequel ils expliquaient un petit peu tout leur framework, on va dire opérationnel, de comment est-ce qu'ils construisaient une opération d'influence, quels étaient les leviers psychologiques qu'ils employaient, etc. À la lecture de ces PowerPoints, donc qui sont encore une fois en ligne aujourd'hui, je crois sur le site de The Intercept au moins, essayez d'imaginer comment est-ce que l'ajout de deepfake pourrait rendre ces techniques encore plus efficaces. Et je pense que l'application est extrêmement directe.
Ok. Gérald, je te voyais acquiescer, tu as quelque chose à ajouter à ça?
Oui, non, en fait, ça m'a rappelé aussi, là, on a vu il y a récemment encore des extraits de journaux télévisés qui avaient été manipulés pour vendre un certain nombre de produits pas très heureux à des gens qui ont été victimes d'une arnaque. Et au final, là, on est dans l'escroquerie pure et dure, mais on peut très bien faire passer des messages de ce type-là. Voilà. Donc, en fait, il y a des usages très concrets en fait qui peuvent être mis en œuvre avec ces outils-là, et c'est assez inquiétant en effet, effectivement, sur le fond.
Oui, effrayant. En effet, ces deepfakes, il doit bien y avoir un moyen de les éviter ou de lutter. Comment on peut réussir à endiguer ce phénomène, à les éviter? Ça semble difficile avec les réseaux sociaux qui, à mon avis, sont le canal de communication de diffusion privilégié pour les deepfakes. Ça semble difficile d'éviter la diffusion en masse, surtout avec le niveau de modération actuel des réseaux sociaux. Mais il doit bien avoir un moyen de lutter contre à la source ou bien de, je sais pas, de passer par de la sensibilisation, de l'éducation dès le plus jeune âge.
Alors, moi, j'ai envie de citer une loi qui s'appelle la loi de Brandolini. Et ce qu'elle dit, c'est qu'il faut 10 fois plus d'énergie pour dissiper des âneries sur Internet que pour les produire.
C'est probable, ouais.
Et je crois que c'est assez vrai. C'est-à-dire que on a tous fait l'expérience d'essayer de discuter avec quelqu'un qui avait tort sur Internet. Ça arrive des fois. C'est super dur. C'est super dur d'arriver à rétablir la vérité. Et je pense qu'avec les deepfakes, on aura le même problème. Mais l'idée de dire on va aller sur les réseaux sociaux et on va lutter avec les mêmes armes en disant ça, on a vu que c'est un deepfake, on va le dire à tout le monde et en fait les gens vont comprendre, à mon avis, c'est voué à l'échec. Je suis pas vraiment optimiste sur cette thématique. Pourquoi? Parce que je pense que ça va être très très compliqué à la fois de les arrêter après qu'ils aient été diffusés, mais les détecter avant, ça va pas être très très simple non plus. Alors aujourd'hui, il y a encore quelques petits artefacts sur les artefacts audio ou visuels qui permettent de dire, ah, cette image, ce personnage a 6 doigts, c'est certainement une image qui est générée par une IA. On en a encore, mais ce sera pas éternel. Et même si on arrive à tendre le bras des géants du numérique, à les forcer à watermarker tous les contenus qui permettent de générer, il y aura toujours des modèles open source qui seront disponibles à côté. Il y aura toujours des sociétés qui seront, elles, soit pas contraintes, soit qui choisiront de ne pas coopérer sur ces obligations-là, et dont finalement le fonds de commerce, ce sera de générer des contenus IA qui ne sont pas facilement identifiables. Donc, quand bien même on arriverait à forcer les géants du numérique à nous donner un coup de main sur cette problématique, et je pense que ça va pas être facile, parce qu'à mon avis, ils ont pas spécialement intérêt à dépenser de l'argent pour ça, enfin, ou peut-être que si, mais en tout cas, moi je les vois faire un peu de résistance certainement, quand bien même ils seraient coopératifs, dans tous les cas, il y aura une prolifération à côté de contenus générés par des IA qui, eux, auront pour but d'échapper à toutes les méthodes de détection qu'on aura mises en place. Donc, à mon avis, je sais pas trop comment on va faire, mais je pense que ça va être très très compliqué, un jeu de chat et la souris qui va durer un certain temps.
C'est sûr que certains géants de la tech vont jouer le jeu, d'autres non. Je pense par exemple à Meta qui, pour les contenus générés par IA, évoquait la mise en place d'un filigrane dans les métadonnées il n'y a pas longtemps. Enfin, c'était uniquement pour les contenus de Meta.
Ouais,
qui en même temps,
Meta... Le principe, c'est qu'on peut les effacer. Quoi.
Et en plus, Meta qui promet aussi l'open source. Enfin bon,
oui,
ça et puis...
C'est cotère sur jambe de bois et affichage marketing publicitaire.
C'est pour se donner une bonne image.
À la veille des élections, alors que Zuckerberg est passé devant le Sénat et qu'il a dû s'excuser platement devant tout un ensemble de familles qui étaient là, qui avaient été victimes de problématiques sur Facebook. Bah, c'est vraiment de la pub.
Alors, comment on fait pour lutter contre les deepfakes? Est-ce qu'on peut imaginer la création d'un logiciel?
De mon point de vue, c'est des solutions un peu techno-optimistes. En vrai, en fait, on peut rajouter 1000 couches de logiciels. Ça servira à tout un tas d'entrepreneurs, de jeunes start-upers pour lancer leur boîte et ça sera très bien. Mais en réalité, c'est pas comme ça qu'on va régler le problème. D'abord, si on a un problème, il faut pouvoir l'évaluer. Et donc, considérer si oui ou non, le problème qu'on a est un véritable problème ou si c'est quelque chose dont on peut faire l'économie en termes d'efforts. Bon. Si on considère que effectivement le fait que la moitié de la population humaine soit victime potentielle de deepfake ou de manipulation, voilà, c'est-à-dire que toutes les femmes sont potentiellement victimes de ces deepfakes puisqu'il s'agit d'avoir une photo ou quelques images d'elles pour pouvoir réaliser un revenge porn avec leur image. Est-ce que c'est suffisant pour pouvoir engager une action publique? Je pense que oui, mais peut-être que d'autres diront que la moitié de l'humanité, c'est pas encore suffisant. Bon, alors donc si l'autre argument, c'est est-ce que effectivement il y a une pression sur le débat démocratique qu'on a mis en place depuis près de 250 ans maintenant avec l'établissement de démocratie durable, etc. Est-ce que ça pose problème? Si on considère pas que le risque potentiel de voir le dialogue, le collectif, le commun se désagréger sous nos yeux est suffisamment important, alors effectivement, on peut continuer à regarder ailleurs. Maintenant, je pense que là, aujourd'hui, donc, il y a une responsabilité, hein, c'est identifié. Je pense que ça engage suffisamment de gens dans le monde et de problématiques suffisamment lourdes au niveau sociétal pour avoir une réponse. Et cette réponse, qu'est-ce que ça peut être? Alors, entre autres, par exemple, quand on voit les logiciels utilisés et les moyens de diffusion, la plupart, ils sont diffusés sur des plateformes connues, contrôlées par des boîtes identifiées, dont les patrons sont identifiés, etc. Il est impensable que, en fait, ces gens-là puissent faire la pluie et le beau temps comme ils l'entendent et être récalcitrants un tout petit peu à ce que la puissance publique puisse leur dire. C'est pas normal. C'est-à-dire que ces gens-là, si à un moment donné, ils acceptent effectivement de diffuser des logiciels qui pourraient poser problème, bah c'est qu'ils ont un problème. Il y a un problème de responsabilité morale et éthique là-dedans, voire juridique. Donc, à un moment donné, sans vouloir faire de censure, on peut quand même restreindre l'usage de ces outils-là à des gens qui sont parfaitement identifiés, typiquement dans l'industrie du divertissement, les studios de cinéma, la télévision, que sais-je encore. À partir du moment où on est clairement enregistré comme une société clairement identifiée avec des dirigeants clairement identifiés, on applique pour obtenir une licence convenable et tout va bien. Une licence d'opération, y compris même quand c'est sur GitHub, en théoriquement accès libre. GitHub a censuré des contenus pour éviter que, par exemple, l'Iran n'utilise un certain nombre de logiciels. Il n'y a pas de raison qu'il puisse censurer en fait un certain nombre de codes qui sont disponibles sur GitHub et pas d'autres. Je rappelle que GitHub, c'est aussi la propriété de Microsoft, qui est elle-même fabrique de l'IA. Donc, à un moment donné, elle peut être aussi responsable de ce qu'elle fait. Sur les plateformes de diffusion, que ce soit Meta, que ce soit Reddit, c'était Condé Nast hein, quand même à l'époque, et ils ont laissé proliférer tranquillement des communautés qui vendaient du porno tranquillement. Meta ou d'autres acteurs, c'est pareil, ils doivent avoir cette responsabilité. Et le problème, c'est qu'en Europe, par exemple, on n'a pas de poids sur ces technologues-là, puisqu'ils sont à la fois basés aux États-Unis, protégés par l'article de la section 230 aux États-Unis. Donc, en fait, ils n'ont pas de responsabilité légale par rapport aux contenus qui sont publiés par leurs usagers sur la plateforme. Bon, il est temps que ça change, quoi, qu'il y ait... Donc, pour moi, c'est une question de politique et de savoir comment on arrive à mettre la pression sur ces gens-là pour pouvoir enfin arriver à quelque chose de concret, pas logiciel à la noix.
On n'est pas forcément rendu, du coup, parce que ça fait des années que, pas forcément que pour les deepfakes, mais ça fait des années que le problème de la responsabilité des grandes plateformes se pose et est posé par de nombreuses personnes. Ça n'a pas l'air d'être en voie de changer. La section 230 a failli être refaite, mais finalement, elle n'a pas été modifiée. Enfin, chaque fois qu'il y a une tentative, finalement, c'est le statu quo. Donc, en appeler à la responsabilité, est-ce que ce n'est pas utopiste? Presque.
Non, mais c'est pas. Non, c'est une question. Alors, moi, j'ai pas d'utopie là-dedans. C'est une question de volonté politique. Hein. La politique, c'est l'expression aussi de. Enfin, c'est du concret. C'est pas une parole en l'air. Au niveau européen, on peut très bien dire du jour au lendemain à Facebook et aux autres, en expliquant la situation clairement et pas de façon complètement aberrante, que, en fait, que ça soit Facebook, Twitter ou les autres, posent des problèmes majeurs au niveau européen et que donc il faut soit les interdire, soit les restreindre leur utilisation, soit voilà. Enfin, je veux dire, la politique, ce sont des choix de société et il est question de il faut se poser la question de savoir comment on veut vivre dans cette société. Si on veut avoir un ensemble de technologies qui soit plus à notre service, mais qui soit contre nous sur bien des plans, laissons proliférer les outils qui pourraient éventuellement nous poser problème. Si on considère que la technologie doit être à notre service et un vecteur de bien et de progrès, comme je pense que ça peut être, ça doit l'être, dans ce cas-là, il faut agir politiquement pour pouvoir forcer la main aux acteurs privés. C'est pour ça qu'il y a des différentes couches, hein. Alors, c'est peut-être ma formation juridique qui veut ça, mais enfin, à un moment donné, il y a des choses qui sont un peu évidentes, quoi.
De mon côté, ouais, je suis vraiment d'accord avec Gérald sur toute la ligne, avec l'astérisque suivante qui est qu'à mon avis, on n'y arrivera quand même pas. Quoi. Genre, je suis d'accord, mais mon expérience de la vie jusqu'ici, puis des 20-25 dernières années d'interaction qu'on a eu avec la tech sur d'autres problèmes, il y avait un appel à leur responsabilité éthique et morale. Bon, ils ont déjà prouvé que jusqu'ici, c'était pas forcément un argument fort à leurs yeux. Quoi. Et oui. Voilà, je pense pas que ce coup-ci, on y arrivera beaucoup mieux. Et
là, parce que c'est moi, c'est un appel.
Voilà. Parce que c'était un appel à la responsabilité. Là, non, en fait, moi, ce que je prône, c'est vraiment pas l'appel à la responsabilité.
C'est imposé.
C'est l'application stricte et froide de faire l'ego, quoi.
On est d'accord. Je pense que ça n'arrivera pas quand même, mais je le souhaite. Et le vrai souci étant que si jamais ils font pas ça, honnêtement, moi, je vois pas de solution, quoi. Donc, on est un peu coincé à ce titre.
Après, il y a peut-être la seule... Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une note d'espoir au sens strict du terme, mais en réalité, je pense qu'il y a aussi... Il n'y a pas que la tech dans la vie. Et donc, du coup, il y a d'autres... On fait face à d'autres problématiques. Et je me demande dans quelle mesure ces autres problématiques-là, type réchauffement climatique, enfin, crise climatique, etc., ne vont pas, en fait, faire basculer aussi, à un moment donné, les priorités des uns et des autres sur d'autres sujets, notamment sur le plan d'allocation des ressources, etc., où on va se dire à un moment donné, non, mais c'est bon, aller chercher 7 milliards pour faire vivre OpenAI quand, 7 000 milliards pour faire vivre OpenAI, c'est peut-être pas le meilleur des investissements.
Donc, voilà. Ça, plus l'investissement en temps de calcul des cartes graphiques, ça fait un peu d'énergie aussi qui potentiellement pourrait être allouée à d'autres choses, quoi.
Oui, exactement, oui. L'extraction minière et tout ça.
Eh ben, on va le prendre comme une note d'espoir quand même, malgré tout. Il vaut mieux voir surtout de nos jours, voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Dernière question. On va commencer avec toi, Yvan. Quelles sont tes recommandations pour être paré face au potentiel deepfake qui pourrait survenir pour cette année électorale? Quelles sont les bonnes pratiques ou les choses à avoir en tête en tant qu'utilisateur des réseaux sociaux, par exemple?
Je dirais que c'est pas quelque chose qui va être complètement nouveau. À l'échelle sociétale, c'est compliqué. À l'échelle individuelle, je pense qu'on a tous le pouvoir, peut-être même le devoir, de s'éduquer à l'information, c'est-à-dire être capable d'identifier la source de l'information, de qualifier sa fiabilité, ces choses-là, d'être capable aussi de prendre l'habitude, certainement d'aller lire les articles avant de les retweeter, par exemple. Ça peut paraître bête, mais ça fait partie de la problématique. Mm-hmm. Donc, je pense vraiment que les deepfakes, quels qu'ils soient, finalement, ils vont avoir un point de diffusion initial qui ne sera pas l'AFP et qui ne sera pas Le Monde et autres. Et donc, si jamais on est capable d'identifier d'où est-ce que vient l'information et éventuellement de savoir si cette source d'information elle est crédible, il y a certainement beaucoup de problèmes qui vont être évités. Enfin, le challenge, c'est qu'on soit une masse critique de citoyens capable de faire ça. Et là, je ne sais pas tellement quels sont les leviers pour y arriver. Mais en tout cas, pour un individu, pour s'en protéger, pour moi, c'est vraiment la seule manière.
Ok. Gérald, tes recommandations ?
Moi, j'ai envie de dire que dans un premier temps, déjà, les deepfakes ne sont peut-être pas forcément les plus gros problèmes, parce que quand on voit que la campagne américaine va faire intervenir Trump, le vrai problème de désinformation risque pas forcément de venir des deepfakes, mais de
c'est
Trump
pas faux.
Lui-même. Donc, c'est vrai. Et de toute sa cohorte de gens qui l'accompagnent. Donc ça, c'est un peu le premier souci. Donc effectivement, s'adresser à la source, c'est un très bon conseil, mais effectivement, quand on voit la source, on se dit que c'est pas forcément de bonne voie. Non, mais c'est vrai que, en fait, je pense qu'il faut remettre en cause systématiquement son système de croyance profondément. C'est-à-dire que quand on croit savoir quelque chose, il faut le questionner. Il faut pas en être certain et sûr. Il faut essayer de recouper, de se questionner. Est-ce que j'ai bien raison de marquebouter dans ces croyances-là, y compris quand elles sont tout à fait légitimes, qu'on se nourrit d'informations normales. C'est-à-dire que même dans les informations, on va dire, normales, issues du Monde ou de l'AFP, ce sont de bonnes informations dans l'ensemble, mais elles sont toujours teintées un peu d'un prisme idéologique, etc. Pourquoi pas aller voir aussi un peu de presse de droite, un peu de presse de gauche, essayer de faire, voilà. C'est vrai que ce qu'on appelle les gatekeepers, les gardiens du temple, ont cette fonction traditionnelle de faire attention justement à avancer des contenus qui soient vérifiés, parce qu'ils eux-mêmes ont des obligations légales importantes. Ils peuvent être accusés, ils peuvent être envoyés à la chambre correctionnelle pour diffamation. Enfin bon, voilà, il y a des responsabilités juridiques qui sont engagées de la part d'un éditeur. Donc on peut se dire que entre Jean-Michel 312 qui agi de façon anonyme sur Twitter et puis Le Monde qui a des responsabilités face aux tribunaux, faut peut-être aller voir Le Monde plutôt que Jean-Michel 312, quoi.
Oui, l'éducation, on revient finalement aussi à l'éducation aux médias et pratiquer le doute. On retiendra aussi ça. Eh bien, merci pour vos interventions et vos expertises et votre temps, messieurs.
Merci à toi.
Merci.
Merci également à nos auditeurs et à nos auditrices pour leurs écoutes. Je rappelle qu'il est possible de s'abonner pour ne manquer aucun épisode. Tous nos podcasts sont disponibles sur les plateformes de streaming et sur siècledigital.fr. Et à la semaine prochaine.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.